Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour, il est 13h, Christophe Mallet pour vous accompagner au cours de 7h en français sur Radio SBS en ce 4 décembre 2021. Au programme, nous aurons notre rétrospective comme chaque samedi. Nous partirons vers l'année 1995 et nous parlerons également bien de l'Alliance française de Melbourne en cette fin d'année compliquée pour tout le monde et compliquée pour eux également. Mais pour l'heure, on va passer au journal. On commence donc avec les grands titres de l'actualité pour aujourd'hui. Un cluster Omicron dans une des écoles à l'ouest de Sydney. Un cluster qui passe à 13 enfants. 3 cas donc de Omicron parmi ces 13. L'OMS qui dit qu'Omicron est désormais détecté dans près de 38 pays. On va le voir. Et en sport, en tennis, la Croatie qui se qualifie pour la finale de la Coupe Davis. Je viens de vous le dire en titre, les autorités de Nouvelle-Galles du Sud cherchent à retrouver la source d'un nouveau groupe de variants Omicron dans une des écoles à l'ouest de Sydney. C'est la Regent's Park Christian School où le nombre donc, de cas dans cette école est passé à 13. L'État a signalé aujourd'hui donc pour la Nouvelle-Galles du Sud un total de 325 nouveaux cas de Covid et un décès. Pendant ce temps-là, dans le Victoria, on enregistre 1365 nouvelles infections et 9 décès liés au virus. Le Victoria a atteint 91% de vaccination à double dose pour les personnes âgées de plus de 12 ans. Le Queensland a détecté hier un nouveau cas de COVID-19 avec de nouveaux sites d'exposition qui sont maintenant répertoriés dans le sud de Brisbane. On écoute Yvette Dath, la médecin en chef du Queensland.
We have a new couple from the Gold Coast who have been infectious in the community to up to 13 days. One of those people work at a private aged care facility. We can report all of the staff are fully vaccinated and over 90% of the residents are fully vaccinated and we are testing everyone in the centre today and we are not moving anyone.
Voilà, donc pour le Queensland, l'Organisation mondiale de la santé affirme que le variant Omicron du coronavirus a maintenant été détecté dans 38 pays à travers le monde. Je vous le disais en titre, la responsable technique de l'OMS pour le COVID-19, Maria Van Kerkhove, a déclaré que la gravité de la maladie allait de tous les stades, fonctions légères à de graves versions donc, de la maladie et que les enquêtes étaient toujours en cours pour déterminer donc, la dangerosité d'Omicron. On l'écoute.
Initial reports of Omicron came from a cluster of university students. And these tend to be younger individuals, and those individuals tend to present with more mild infection. So there was initial reports that it tended to be more mild, but it's really too soon. Because first of all, everybody who is infected with SARS-CoV-2, regardless of what variant, will always start out with a mild disease. And so maybe it will stop there, but it may stop with mild disease, or it may take some time to develop severe disease. So it's too early for us to really understand severity for Omicron.
Voilà ce qu'on pouvait dire sur le Covid pour aujourd'hui. Alors, c'est le plus gros contrat d'avion militaire pour la France de l'histoire, d'après Emmanuel Macron. Un succès français pour le patron de Dassault. Une commande record hier, signée entre Paris et les Émirats Arabes Unis. 80 avions Rafale pour un montant de 16 milliards d'euros. Oui, mais voilà, les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite sont aussi accusés d'utiliser ces armes françaises dans le conflit au Yémen, là où l'Arabie Saoudite, justement, est soupçonnée de crimes de guerre, comme nous l'explique Aymeric Éloin d'Amnesty International.
Que nous avons documenté dans le cadre du conflit au Yémen, et c'est ça le contexte en fait qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on parle des Émiratis qui ont possiblement violé le droit international humanitaire en recourant à des frappes aériennes et en causant de possibles crimes de guerre. Et c'est la raison pour laquelle nous, Amnesty International, avec d'autres ONG, notamment ICCHR basé à Berlin, nous avons saisi le bureau du procureur de la Cour pénale internationale en décembre 2019 pour faire la lumière sur 26 cas de frappes aériennes qui sont autant de possibles crimes de guerre. Donc, Oui, on est préoccupé. On est préoccupé de voir la France ne pas prendre en considération ces éléments-là et continuer à fournir en armes les Émirats Arabes Unis, et notamment en leur fournissant 80 Rafales, sachant que les Rafales vont remplacer les Mirages fournis par Dassault il y a quelques années et toujours maintenus en condition opérationnelle par Dassault. Donc, et pour nous, clairement, aujourd'hui, la diplomatie française se résume, on peut le dire, à une sorte de diplomatie des armes où les aspects juridiques attachés aux droits de l'homme, aux droits internationaux humanitaires n'existent plus.
Et c'était Aymeric Hellouin d'Amnesty International. Mais malgré donc tout cela, le président français, qui est d'ailleurs en déplacement dans le Golfe, ne boude pas son plaisir. Valérie Gasse.
Emmanuel Macron a en quelque sorte fait le service après-vente du contrat signé à Dubaï avec les Émirats Arabes Unis pour la vente de 80 Rafales.
C'est le plus gros contrat militaire à composantes françaises de notre histoire. Plus gros que les précédents. Et même ceux sur lesquels, à ce stade, il y a des déconvenues.
Une allusion au contrat AUKUS pour la livraison de sous-marins rompu par les Australiens, dont le montant était, selon le président, plus élevé, mais les retombées économiques pour la France moins importantes. Le contrat Rafale, il a pu être conclu grâce à l'excellente relation entre la France et les Émirats Arabes Unis, intensifiée ces dernières années parce que, selon Emmanuel Macron, les Émirats ont vu que la France était un partenaire solide et fiable. Dans un moment où ils se sont sans doute posé plus de questions sur d'autres partenaires historiques, une phrase prononcée en marge du déplacement et qui fait allusion aux États-Unis. Et aux critiques émises en France contre la signature du contrat, notamment par l'écologiste Yannick Jadot qui a parlé de honte, le président a répondu du tac au tac.
Ce sont des contrats importants pour notre économie, ils créent de l'emploi. Et ils créent de l'emploi en France, parce qu'ils seront produits en France. Et ils permettent de financer l'économie française, donc c'est bon. C'est très bon pour la France. Ce qui est bon pour les Françaises et les Français, je le défends ardemment.
Même à des milliers de kilomètres, Emmanuel Macron renvoie ses adversaires dans les cordes.
Et c'était Valérie Gasse pour RFI. L'Union européenne a été critiquée pour avoir soutenu les efforts nationaux de la Libye visant à endiguer le passage des migrants. C'était dans le passé et elles étaient, tout en aidant les forces des gardes-côtes autoproclamées libyennes qui interceptent régulièrement les navires transportant des migrants avant de les placer dans des centres de détention. 455 millions d'euros, ça fait 735 millions de dollars australiens, ont été envoyés en Libye depuis 2015. L'Union européenne envoyant des fonds au centre indirectement par le biais d'agences d'aide. La ministre libyenne des Affaires étrangères, Nadia Mangouche, a critiqué un système de dissuasion des migrants européens, affirmant que la solution entre guillemets était superficielle et qu'elle ne servait à que les intérêts des États de l'Union européenne. Madame Mangouche dit que la solution demande plus que de l'argent, avec des meilleurs systèmes de police aux frontières nécessaires pour s'attaquer à la source du problème. On l'écoute.
Let's not ignore how problematic the issue is for Libya in the first place. Please do not push the problem in our lap, and please don't point your fingers at Libya and portray us as a country which abuses and disrespects refugees. I repeat, the problem is bigger and multi-layered and very complex. I know you do not like to hear it, but it's the truth. We are tired of beating around the bush and all these superficial solutions being offered. It's time to state the problem and face it.
13h08, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, le UNHCR, a déclaré que des niveaux de famine vraiment sans précédent sont attendus en Afghanistan à l'approche de l'hiver. Le porte-parole ou la porte-parole Babar Balbosh a déclaré que près de 23 millions de personnes, soit 55% de la population, sont confrontées à des niveaux extrêmes de faim et presque 9 millions sont menacés par la famine en Afghanistan. Il dit que la situation va empirer à mesure que les températures chutent. La température moyenne dans les régions d'Afghanistan pour l'hiver est souvent aux alentours de moins 25 degrés Celsius en hiver. On l'écoute.
It's a race against time, not only catching up to reach more people, but also finding more people in Afghanistan that need our support. And it's a crisis of hunger and starvation. People don't have enough to eat, and it's very visible.
Voilà donc pour l'Afghanistan. Jen Psaki a déclaré que la Maison-Blanche prendrait des mesures pour se préparer, entre guillemets, à la, au cas où les Russes ou la Russie décidaient d'envahir l'Ukraine. La Russie a nié à plusieurs reprises ces accusations, mais le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, qui d'ailleurs a rencontré le secrétaire d'État américain, c'était le 2 décembre, a déclaré que les États-Unis avaient menacé de nouvelles sanctions. On écoute Jen Psaki.
And we want to make sure that we are prepared. We know what President Putin has done in the past. We see that he is putting in place the capacity to take action in short order. And should he decide to invade, that is why we want to be prepared and in an area we have expressed serious concern about. So what he means by a package is there's a range of tools at our disposal. Of course, economic sanctions are an option, but we are going to do that in coordination with our European partners, with Congress.
Voilà donc la porte-parole de la Maison-Blanche sur la situation entre la Russie et l'Ukraine. Alors selon les autorités ukrainiennes, il y aurait 94 000 soldats russes mobilisés aux abords des frontières. On écoute Joe Biden, le président américain.
Je suis en contact constant avec nos alliés en Europe et avec les Ukrainiens. Le secrétaire d'État et le conseiller à la sécurité nationale sont impliqués au maximum. Et ce que je fais, c'est de mettre en place ce qui, je crois, sera un ensemble complet et significatif d'initiatives pour qu'il soit très, très difficile pour M. Poutine d'aller plus loin. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe en ce moment.
Voilà, donc les propos traduits du président américain Joe Biden. D'ailleurs, on reste avec la Russie et le Facebook russe qui passe sous contrôle du Kremlin. VK a été racheté par deux entreprises très très proches de Vladimir Poutine. Anissa El-Jabri.
Gazprom d'un côté, mais surtout Sogaz de l'autre, les actifs du Facebook russe sont désormais bien encadrés et dirigés. Plusieurs médias russes l'ont annoncé dès vendredi matin. Le nouveau PDG de VKontakte s'appelle Vladimir Kirienko, le fils du chef adjoint de l'administration présidentielle, Sergueï Kirienko. Leader des réseaux sociaux en Russie, le nombre d'utilisateurs mensuels de VKontakte est estimé à 100 millions dans le monde, 72 millions de Russes, un peu plus de la moitié de la population. Ces dernières années, le réseau social avait déjà connu une forte croissance et suscité les appétits. En 2014, le FSB avait demandé à son fondateur Pavel Durov de transmettre les données des utilisateurs. Après avoir refusé, il avait quitté le pays. Pavel Durov, qui est aussi le fondateur de la messagerie Telegram, vit depuis en exil. L'autre enseignement de ce rachat tient à l'actionnaire désormais principal. Sogaz devient ainsi le plus grand acteur du marché des médias russes. Son groupe inclut notamment plusieurs chaînes de télévision et un quotidien.
13h12, on fait un mot de sport avant de conclure ce journal. La Croatie qui a atteint la finale de la Coupe Davis après que Nikolaj Metkić et Mate Pavic donc battent Novak Djokovic et Filip Krajinovic sur le score de 7-5, 6-1 lors du match décisif en double donc pour donner la victoire à la Croatie 2-1 face à la Serbie. Les Croates affronteront dimanche l'Allemagne ou la Fédération de tennis de Russie qui se rencontrent donc dans l'autre demi-finale du handball et les Françaises qui ont fait une belle entrée dans le mondial en Espagne en battant l'Angola sur le score de 30-20. On écoute le sélectionneur national, Olivier Krumpels.
C'est toujours compliqué de commencer un mondial face à une équipe atypique qu'on ne connaît pas beaucoup. Il y a eu de très bonnes choses et de beaucoup moins bonnes. Mais la défense s'est montrée solide, bien aidée par Laura Gloser qui a surnagé sur ce match. On a eu beaucoup de ballons en montée de balle, c'est ce qu'on voulait. On sait qu'ils sont extrêmement fragiles sur les contre-attaques montées de balle. J'aurais bien aimé mieux jouer en attaque. Il faudra mieux jouer que ça en attaque contre les équipes solides européennes. Mais à chaque jour suffit sa peine. Et ce qui est très important, c'est qu'on a gagné 10 buts. Ce qui nous protège en cas de golaverage à 3 avec Angola et un autre adversaire. C'est tout bénéfice en termes de résultats.
Voilà donc pour le mondial de handball en Espagne. Allez, cours d'œil météo pour cet après-midi en Australie. À Perth, il fera 33 degrés. Adélaïde, 24. Melbourne, 19. À Hobart, il fera 15. Canberra, 25. Sydney, 23 degrés. Brisbane, 31. Cairns, 34. Et à Darwin, il fera 35 degrés. Un rappel des grands titres de l'actualité pour aujourd'hui, un cluster Omicron dans une des écoles à l'ouest de Sydney. Le cluster global passe à 13. Il y a 3 cas d'Omicron parmi ces 13 élèves. L'OMS dit que Omicron est maintenant détecté à travers 38 pays. Et en sport, on vient de le voir, la Croatie qui se qualifie pour la finale de Coupe Davis et la belle entrée dans le mondial des Françaises de handball, 30-20 contre l'Angola. Voilà, 13h14, courte pause et on se retrouve dans le reste du programme. Tout de suite après ça.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Place à notre rubrique rétro à présent. Nous sommes le 4 décembre, direction l'année 1995. Après des mois de réflexion, était dévoilé le nom du futur grand stade de 80 000 places, alors en construction à Saint-Denis, au nord de Paris. Ce stade qui allait accueillir quelques années plus tard la finale de la Coupe du Monde 1998. Baptisé Stade de France, l'enceinte est toujours là aujourd'hui. Elle accueille aussi bien des matchs de football, de rugby que des concerts. Et en 2024, s'y disputeront des épreuves d'athlétisme des Jeux Olympiques de Paris. 4 décembre 1995, le jour où le grand stade est devenu Stade de France. C'est notre rétro sonore avec les archives de l'INA et des extraits de l'émission C'est pas sorcier.
C'est pas original, mais c'est un nom qui va rester dans l'histoire et qui est très beau.
Trois mois après la pose de la première pierre, le grand stade où se déroulera le 12 juillet 98 la finale de la Coupe du Monde de football a enfin trouvé son nom, le Stade de France.
Moi, je suis ravie du choix du nom parce que c'est ce que j'ai proposé en premier. Alors, je suis très contente.
Les concessionnaires souhaitaient une appellation style Elysium qui parle aux étrangers. Les puristes souhaitaient le baptiser du nom d'un sportif comme Jules Rimet, le fondateur français de la Coupe du Monde. Reportage Laurent-Frédéric Bollet, Claude Sicard.
Le jour se lève sur le chantier de ce qu'on appelle encore le grand stade. Un jour pas comme les autres, un jour de baptême. Il n'empêche qu'on est vraiment là pour baptiser un bébé dont la recherche du nom a nécessité des mois de réflexion et la mise en place d'un comité. 13h15, fin du suspense.
Le 12 juillet 1998, la finale de la Coupe du Monde de football aura lieu au Stade de France.
Commençons d'abord par localiser le Stade de France. Alors il se trouve à 1,5 km au nord de Paris sur la commune de Saint-Denis. Dans un triangle formé par l'autoroute A1 qui monte vers le nord, l'autoroute A86 qui fait le tour de Paris et le canal Saint-Denis. Et le plus simple pour y aller, ce sont encore les transports en commun, RER ou métro, qui s'arrêtent à deux pas du stade.
Eh bien voilà, c'était pas compliqué. Stade de France, juste le choix le plus consensuel et le moins risqué.
J'espérais que dans la seconde réunion, apparaîtraient peut-être des termes plus novateurs. Il faut bien que je reconnaisse, là-dessus, j'ai plutôt échoué.
Il aura donc fallu deux réunions du comité de réflexion et une consultation populaire sur les ondes de France pour en arriver là.
Le stade, lui, a coûté 364 millions d'euros. L'État en a payé un peu plus de la moitié. Le reste est financé par un consortium privé qui gère le stade pendant 30 ans. Le chantier a dû être achevé en un temps record, 31 mois seulement. Et avant de construire les tribunes, il a fallu creuser, car le stade est en partie enterré. La pelouse est à 11 mètres en dessous du parvis.
On l'a enterré pour des facilités d'accès et surtout des facilités d'évacuation. La seconde raison, c'est que ce stade est un stade urbain. Ça veut dire qu'en face de moi, dans votre dos, il y a un futur quartier qui va venir s'implanter. Et nous ne voulions pas que ce stade, qui est déjà monumental, soit trop haut.
Le Stade de France, qui en tout cas ne sera pas que le stade du football.
On est cousins germains avec le football, simplement je crois qu'on a une chance extraordinaire, c'est que le rugby va finalement inaugurer ce grand stade avant la Coupe du Monde de football. En tout cas, l'équipe de France est prête, elle sera au rendez-vous.
Ce sera pour le tournoi des 5 nations 1998 si le chantier avance comme prévu, puis il y aura donc la Coupe du Monde et d'éventuels Jeux Olympiques. Le grand stade a désormais un nom, il reste à lui construire un destin.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, bienvenue au Stade de France. La France possède enfin un stade digne de ce nom, un stade de 80 000 places dans lequel on pourra faire disputer les plus grandes compétitions du monde, que ce soit en football, en rugby, en athlétisme et dans bien d'autres sports.
Finalement, Jamy, la meilleure place pour regarder les matchs, c'est ici, dans la nacelle, au niveau du toit, à 45 mètres au-dessus de la pelouse. Tu devrais venir voir, ça vaut vraiment le coup d'œil.
Bon, victoire 1-0 donc de l'équipe de France, but marqué par Zinedine Zidane à la 20e minute pour l'inauguration de ce Stade de France. C'était le 7e but de Zidane, Thierry, sous le maillot bleu. Oui, mon cher Pascal.
Eh bien, justement,
oui.
On va aller le voir,
allez Zizou. Le voir.
Zizou. Voilà, Zinedine, bravo, vous entrez dans le livre de l'histoire du foot français, c'est vous le premier buteur. Est-ce que c'est de bon augure avant le Mondial?
Oui, je crois. Je crois qu'on voulait faire un match, mais je crois que c'est encourageant pour la Coupe du Monde.
La pelouse, ce n'est pas ce qui coûte le plus cher dans ce grand stade. Si on exclut la dépollution du sous-sol, il faut compter environ 150 000 euros pour avoir une pelouse toute neuve de 9 000 mètres carrés. Alors j'ai fait le calcul, ça fait à peu près du 16 euros du mètre carré. C'est à peu près le prix d'une moquette.
Ce gazon n'a pas été planté directement dans le stade. Il a d'abord été cultivé à Fontainebleau. On l'a ensuite découpé en tranches, puis en pavés, et transporté par camion jusqu'au Stade de France.
Bah, Jamy, qu'est-ce que tu fais là?
Bah, arrête! Le match va commencer!
Qu'est-ce que tu dis?
Le match va commencer!
Grande Marseillaise, à l'occasion de cette 16e finale de la Coupe du Monde, remarquablement chanté par les chœurs de la garde républicaine et repris par tout un stade.
L'équipe de France.
Quand on est rentrant, il est bien frappé au premier poteau.
Zidane sur ce premier corner français place un coup de tête magistral et ouvre le score alors que l'on joue depuis 27 minutes.
Je dirais que sur le premier but, les Français n'ont pas tué le Brésil mais qu'ils les ont sérieusement blessés. Corps sur l'appel de balle.
Et sortie de Barthez.
Et il y a eu du grabuge sans doute. Il y a eu du grabuge entre Ronaldo et Fabien Barthez.
Oui.
Faut sortir ces ballons.
Djorkaeff. Et but.
Zidane.
Je vous avais dit, il y avait le corner qui venait, il y a eu deux corners et c'est le doublé de Zinedine Zidane juste avant la mi-temps. Petit et but,
et troisième but
d'Emmanuel Petit qui marque à la dernière minute du... et c'est fini, l'équipe de France est championne du monde. Vous le croyez ça, l'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. 3-0, deux buts de Zidane, un but de Petit. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied ! Ah, quel pied ! Oh, putain ! Oh là 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 ! Oh ! Oh, c'est pas vrai ! Oh, c'est pas vrai !
Votre communauté, vos conversations. SBS French. Vous pouvez nous écouter quand vous le souhaitez. Téléchargez émissions, interviews et actualités à la demande. Visitez la page sbs.com.au/french.
C'était les Têtes Raides et cette chanson Face à Face qui fait partie de notre sélection musicale pour le mois de décembre, 13h26, courte pause et on parle d'improvisation, de cours d'improvisation à Melbourne, à la française, tout de suite après ça.
Détendez-vous en découvrant la musique du monde sur SBS Chill. Sur votre télévision et votre radio numérique, en ligne et sur votre smartphone. sbs.com.au/chill. Aujourd'hui, dans le programme en français, on monte sur scène. On va parler de théâtre et d'improvisation à la française. Avec nous, Natacha Muller, la directrice de The French Loop, une compagnie française basée à Melbourne. Natacha, bonjour.
Bonjour Marianne, bonjour à tous.
Ce n'est pas votre première hein, sur les ondes de SBS French. Peut-être certains auditeurs se souviennent de vous, de votre légèreté, de votre amour du théâtre, de votre joie de vivre. Mais reprenons du début et parlez-nous de The French Loop, cette école de théâtre que vous avez fondée. Quelles sont ses missions?
Eh bien, c'est très intéressant comme question puisque au fil des années et de la situation gouvernementale, les missions évoluent. À la base même de la création de French Loop, c'était partager ma passion et pouvoir démocratiser le théâtre, qu'il soit classique, contemporain ou d'improvisation, auprès du jeune public. J'ai créé French Loop pour répondre à cette demande de pratique en fait d'une langue à travers le prisme d'une discipline artistique. Puis de fil en aiguille, j'ai compris que c'était aussi mon premier bébé, hein, ou peut-être mon deuxième, pour être honnête, puisque je l'ai créé dans mon congé maternité.
Donc après avoir eu votre premier enfant.
Ouais. Et donc c'est très marrant en disant ça, parce que je réalise que effectivement j'ai mis beaucoup de cœur et ça reste quelque chose qui fait partie de moi au quotidien. Et donc The French Loop, c'est devenu le carrefour de ma créativité. Je peux donner des ateliers de théâtre pour tout petit, en maternelle, pour adolescents, pour adultes. Je peux aussi créer des spectacles, rejoindre des associations, participer à des mises en scène, inventer des nouveaux concepts d'improvisation ou même de spectacles qui soient du sur-mesure. Tout dépend vraiment de la demande. Et ce que j'aime dans The French Loop, c'est que on peut pas le définir comme une compagnie ou comme une école, mais c'est vraiment c'est comme un objet mutant. En fait, au fur et à mesure de la demande, on a quand même passé, par exemple, plus d'un an et demi en confinement. J'ai pu créer des concours en ligne de lip sync. Vous savez ce que c'est ?
Expliquez-nous.
Donc le lip sync, je pense qu'on l'a tous fait sans savoir que c'était ça. C'est quand on chante une chanson, on la chante pas. En fait, on fait les paroles, on fait du playback. Mm-hmm. Et donc on s'y prend vraiment en jeu, on se déguise et puis on incarne complètement cette chanson. J'ai toujours fait ça depuis toute petite sans me rendre compte que ça pouvait être une discipline et que ça pouvait être un concours, voire même une façon de vivre. Parce que je le fais au quotidien. Bref, et lors du premier confinement à Melbourne, on a créé un concours sur un mois et demi avec plus de 10 participants qui venaient de Suisse, de France, de Melbourne. On avait même un enfant, on avait des gens, des grands enfants et des grands adultes. Et on a créé ce concours en ligne.
De 7 à 77 ans.
Exactement. Mais du coup, c'est vraiment ça, ce French Loop. On s'adapte à ce qui se passe, on crée sur le moment, on improvise, puis on répond surtout à cette pédagogie en fait, artistique. C'est ce qui me motive et m'anime, c'est que même avec les adultes comme les enfants, j'ai envie de partager la bienveillance théâtrale et les valeurs de l'impro qui s'appliquent aux valeurs du quotidien. La valorisation de soi, l'écoute du partenaire, le team building. Créer avec quelqu'un d'autre, c'est aussi apprendre à découvrir, à se découvrir à travers une impro et à travers un échange avec une autre personne. Voilà ce que c'est French Loop.
Et tout est en français ?
Oui, je joue aussi en anglais avec Impro Melbourne, qui est une troupe très connue d'improvisation internationale. Et je peux animer des workshops en anglais, sans souci. Parce que ça, c'est aussi une partie qui est très importante à French Loop, c'est qu'on anime aussi des ateliers pour des écoles, publiques, privées ou des organismes, quels qu'ils soient, en fonction de leurs demandes.
D'accord.
Ça peut être du théâtre forum, ça peut être des ateliers de confiance en soi, de prise de parole en public ou prise de parole tout seul, hein, ça arrive aussi. On fait vraiment tout à la demande.
Mais alors, justement, Natacha, vous parlez d'enfants, d'adultes, de team building. L'improvisation, est-ce que c'est une discipline à la portée de tous ? Quelles sont les qualités qu'il faut avoir, les qualités requises pour faire de l'improvisation ?
Il en faut seulement une. Il faut avoir envie de le faire. C'est tout. On n'a pas besoin d'avoir fait d'études, on n'a pas besoin de savoir parler, on n'a pas besoin d'avoir une maîtrise d'une langue, on n'a pas besoin d'être bien dans ses baskets. Il faut juste avoir envie de faire de l'impro pour en faire. Et c'est déjà énorme.
Et après, c'est vous qui allez travailler sur la timidité, sur le fait d'oser se lancer, sur le fait d'avoir de l'imagination ou de la créativité.
Oui, voilà, exactement. Et tout dépend aussi pourquoi on est là. Parce que les envies de chacun sont différentes et on n'a aussi pas le même investissement. On peut venir à un atelier une fois par mois et juste avoir envie de rire. On peut avoir envie de participer à un atelier parce qu'on ne se sent pas bien dans ses baskets. Tout dépend du pourquoi vous êtes là. Mais tant que vous êtes là, c'est déjà la moitié du chemin. Moi, j'ai juste à vous diriger avec des jeux, des activités et une pédagogie qui vous correspond parce que tous les ateliers sont adaptés et sont faits en fonction du public. C'est-à-dire qu'un jeu va fonctionner avec vous, Marianne, mais peut-être pas avec Pierre. Et puis peut-être que Paul, lui, va avoir besoin d'autre chose. Donc tout est improvisé dans le sens où j'ai mes compétences, je connais mon métier, mais j'ai toujours besoin de prendre du recul pendant un atelier ou un workshop, ou même un spectacle, et de l'adapter. Et c'est ça qui fait la force, en fait, de cette discipline, c'est que, comme French Hoop, elle est mutante, elle n'est pas figée dans le temps, elle se pratique sur du long terme, du court terme, mais elle est constamment en évolution.
Et on se pose une question, c'est peut-on parler d'improvisation à la française ? Alors, je m'explique. Natacha, permettez-moi de parler un petit peu de vous aux auditeurs. Hein. Vous êtes franco-australienne, vous êtes née à Melbourne, vous avez grandi en France, vous êtes revenue à Melbourne avec votre famille il y a 4 ans. De par votre expérience, y a-t-il des différences d'improvisation entre le français et l'australien ?
Il y en a, bien évidemment. Et c'est ce que j'ai réalisé il y a 4 ans quand j'ai rejoint Impro Melbourne. J'ai eu l'impression de redécouvrir totalement l'improvisation. J'ai pris une énorme claque et j'étais très contente parce qu'aujourd'hui, mon improvisation a tellement évolué et s'est tellement enrichie de ces deux cultures. Et vous allez me demander quelle est la différence.
Donc, quelle est la différence ?
La culture australienne de l'improvisation est vraiment axée sur le bien-être et le goodwill, la bienveillance. Mais c'est pas juste une notion qui est en nuage dans une pièce, c'est vraiment quelque chose qui est dans le choix des mots, la manière de commencer une improvisation, la manière de la débriefer et l'accompagner. Une improvisation, c'est vraiment le moment présent. Une fois qu'elle est finie, on peut en discuter, mais elle est finie. On peut pas la refaire. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que il y a vraiment un accompagnement et c'est très sérieux. Tout ce qu'on fait, même si à l'intérieur d'une impro c'est drôle, il y a, on est là. Comment vous expliquer ? Il y a pas ce jugement en fait. Il y a absolument pas ce jugement. On n'est pas des clowns qui s'amusent tous les lundis soirs. On est vraiment en train de créer des choses. Et ces choses-là, quelles qu'elles soient, elles sont importantes. Il y a une valorisation de l'humain et de la création qui est magique. J'ai énormément appris et j'ai beaucoup transmis. Parce que j'ai tout de suite eu envie, via French Loop, de donner ça. De transmettre cette envie de se valoriser et surtout d'appréhender l'échec de manière positive.
SBS en français. Partagez nos rubriques sur Facebook.
Je voulais jusqu'à la dernière note, c'était Malik Judy et Isabelle Adjani et cette chanson « Quelques mots » qui fait partie de notre sélection musicale, comme toutes les chansons que l'on vous joue dans ce programme pour le mois de décembre. 13h38, courte pause et on va parler de l'Alliance française de Melbourne et d'une année 2021 assez compliquée pour l'Alliance française. Mais on revient dans tout ça tout de suite après cela.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Eh bien, le plaisir d'avoir Yona Durand qui dirige l'Alliance française de Melbourne. Bonjour et bienvenue, Yona.
Merci beaucoup. Bonjour à tous.
Et on se parle pratiquement à la fin de l'année. On va commencer par les cours de la rentrée de 2022 déjà et mobiliser les gens qui adorent la langue française.
Absolument. Si l'année 2021 est passée rapidement et a été marquée par l'apprentissage en ligne, puisqu'on a réussi à conserver et puis à attirer de nouveaux apprenants, je pense que l'année 2022, en tout cas, va être vraiment sous le signe de la renaissance et puis de la reconnexion en face à face. Donc, ça va être un plaisir de retrouver les petits et les grands. Donc, à partir du 17 janvier, on a les cours intensifs qui commencent pour les enfants, les adolescents, les adultes. Les cours intensifs, vous le savez, c'est tous les jours de la semaine. Pendant une semaine, on peut se perfectionner sur un volet particulier, que ce soit la diction, la phonétique, la grammaire, l'orthographe ou simplement vouloir s'immerger pour les débutants. Donc c'est assez intensif comme son nom l'indique et c'est un moment qui est souvent très riche d'échanges parce que quand on est avec d'autres apprenants comme ça de façon continue, c'est vrai qu'on fait des bonds de géants en termes d'apprentissage. Donc c'est assez intéressant. Donc pour les adultes, c'est la semaine du 17 au 24 janvier. janvier. Pour les adolescents, donc il y a plusieurs semaines pour le collège et lycée. Donc il y a des révisions, des activités en français, des choses assez amusantes. Ils vont aller dans une crêperie, voir l'art mural dans le centre-ville de Melbourne, puisque c'est quelque chose de commun entre Paris et Melbourne. C'est tous ces graffitis, les expositions. Donc c'est un moment vraiment pour connecter en français dans un contexte réel, d'avoir ces échanges autour de la gastronomie, la culture, et d'être en réel. Donc ce sont des cours qu'on aime bien, voilà, vous l'aurez compris, nos enseignants sont assez fans, et puis on a toujours plus de monde, donc il faut s'inscrire bien en avance. On vient juste de les mettre en ligne, et c'est vrai que c'est souvent sold out, donc ça fait un petit peu un camp de vacances avant la rentrée, c'est assez agréable. Et pour les enfants de 3 à 5 ans, c'est les petits loups. Donc c'est toujours avec des histoires, des chansons, des jeux, il y a pas mal de choses sympathiques, si les conditions le permettent, sorties au zoo ou des choses en extérieur. Donc c'est agréable. Donc si vous savez pas quoi faire, ou si vos vacances ont été annulées, ou si vous voulez être prudent et rester à Melbourne, moi, je vous invite vivement à venir à l'Alliance française, parce que c'est un dépaysement. C'est un peu un voyage en France tout en restant à Melbourne, et c'est tellement agréable de se retrouver et de partager ces moments. Et si vous n'êtes pas là, il y a le premier terme qui commence le 31 janvier. Donc, comme d'habitude, les 10 semaines de cours, tous les âges, tous les niveaux. Je crois qu'il y a plus de 60 cours qui sont offerts, à la fois en ligne et en présentiel. Alors, la particularité, vous le savez, il y a un nombre limité d'enseignants de français langue étrangère en Australie. Les frontières n'étant pas réouvertes, c'est difficile de recruter. Et comme on ne veut pas sacrifier la qualité, il y a un nombre de places très limité, et on n'ira pas au-delà. Donc, ceux qui sont intéressés pour le terme 1, il faut s'inscrire tout de suite si vous voulez avoir le cours, le créneau horaire qui vous convient à votre agenda. Donc ça, vraiment, j'insiste en particulier pour cette année. Si vous pouvez, inscrivez-vous maintenant, parce que une fois que c'est vendu, moi je peux pas faire plus de magie, parce que j'ai des appels et tout ça, mais je peux pas inventer des profs, donc voilà. Et puis il y a bien sûr les bons cadeaux. Si vous avez des amis qui veulent apprendre le français pour Noël, vous savez pas quoi offrir, c'est vrai que c'est toujours c'est faire un cadeau. Je pense que faire un cadeau d'une expérience, cadeau de la connaissance, de l'apprentissage, c'est toujours apprécié. Donc, que ce soit pour vos amis, votre conjoint, votre belle-mère. Et puis, ça peut être en préparation d'un voyage, d'un rêve. Ça, c'est toujours très, très apprécié. Donc, ça, vous pouvez les télécharger en ligne également, les cartes cadeaux. C'est toujours un grand succès.
Et on va peut-être aborder le volet culturel en cette fin d'année. Il y a, en ce mois de décembre, d'ailleurs, la projection du film Delicious, c'est le mercredi 8 décembre au Como.
Oui,
c'est déjà sold out.
Déjà sold out, oui, c'est déjà tout vendu, mais vous pouvez aller le voir à partir du 8 décembre dans les cinémas Palace. Delicious, qui était le film lancé pendant le Festival du film 2021, qui a été un merveilleux succès. Alors, ma petite recommandation, c'est quand même de réserver un bon restaurant français après, parce que ça met en appétit. C'est un très beau film sur l'histoire du premier restaurant français, et c'est vrai que ça ouvre l'appétit, donc c'est important d'assurer derrière. Il y a un autre film, cette fois-ci un documentaire, qui s'appelle Albert et Alic, Alic et Albert d'ailleurs, dans l'autre sens. Ali, qui est un artiste aborigène contemporain assez extraordinaire, et donc qui a un bel échange avec Albert de Monaco. Et donc ce documentaire, qui est fait par une Melbournienne, retrace un petit peu cette rencontre, ces échanges, et puis qui ont abouti à la création d'une œuvre sur le plafond du musée océanographique à Monaco, et qui est juste extraordinaire. Et ça permet de réfléchir sur le changement climatique, l'état de nos océans, les cultures traditionnelles, les ponts qui peuvent être construits entre l'Australie et la France. Et c'est, c'est très émouvant et très inspirant. Donc, tous ceux qui sont touchés par ces thématiques, je les invite à venir voir. Et il y a peu de séances, donc venez vraiment le 10 décembre au Como, Voralic et Albert. Il y a beaucoup de films français là qui vont sortir pour la période de Noël. Donc, je tiens à rappeler que quand même les cinémas sont le seul endroit où il n'y a eu aucune contamination Covid. Donc, c'est des endroits extrêmement sûrs. Vous pouvez venir, ils sont ouverts à 100%. Il y a des très beaux films, c'est un bon moyen de s'évader. Et puis, comme ça, ça vous prépare pour le prochain festival du film, Alliance Française French Film Festival, qui va commencer, qui va être lancé le 3 mars 2022 à Melbourne.
Et déjà, la sélection est connue. On ne va pas tout dévoiler pour la opening night et la closing night. Et...
La sélection est connue. Elle est connue de peu de personnes. Elle sera bientôt diffusée à partir de la fin décembre, début janvier. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une production française qui a été assez extraordinaire pendant le confinement en France. Et c'est vrai qu'on voit énormément de films fleurir dans beaucoup de genres différents, de drames, de comédies. Mais des choses aussi légères, inspirantes, qui nous font voyager, qui inspirent. Donc vraiment, je pense que ça va être un grand cru, comme on dit, une très belle édition. Et voilà, on a pas mal de surprises. Nos partenaires, nos sponsors, nos mécènes, soutiens sont au rendez-vous. Donc on est extrêmement heureux de pouvoir offrir à Melbourne et à l'Australie cette année encore ce beau festival qui va être riche. Il y a 42 films, donc ça va être sur tout le mois de mars. Mais ça passe vite, parce que 42 films en 30 jours, je vous mets au défi.
Absolument. Et Johanna, il y a aussi, l'Alliance française aussi organise des festivités autour de la Noël avec le Christmas Trivia Quiz.
Oui, et bien sûr, on continue toujours à avoir beaucoup d'animations, à la fois en ligne et en face-à-face. Donc, le trivia, oui, ça, je crois que c'est quelque chose de bien australien. Moi, je n'étais pas très au point avant d'arriver. Voilà, c'est gratuit. C'est organisé à la fin de chaque trimestre pour les étudiants. C'est un bon moment. Il y a des jolis cadeaux à gagner. Je vous invite chaleureusement à venir. C'est vrai qu'on aime bien la compétition. D'ailleurs, il y a eu le défi Interalliance, qui était un grand défi international, et deux finalistes australiennes. Vous pouvez voir la rediffusion sur notre site internet. Donc, il y a beaucoup d'événements qui ont eu lieu en 2021, qui sont disponibles sur notre chaîne, mais en fait c'est sur le site internet. Donc il y a le défi Interalliance, il y a la fête de la science qui était aussi avec les lycéens, qui est sur notre site, sur la thématique, sur l'impact du bilinguisme sur les scientifiques, la recherche et les carrières scientifiques. Donc un sujet très intéressant. Et voilà, et en fait, donc vous retrouvez toutes les informations sur notre site internet et également sur un nouveau site qui s'appelle Sacrebleu, qui est le site franco-australien, donc autour de la culture, des tendances, art de vivre. Donc, si vous voulez être à la page au niveau culturel pour les dîners, les événements sociaux de la fin de l'année, il ne faut pas hésiter à jeter un œil sur le site Sacrebleu, qui vous donnera un petit peu toutes les tendances du moment entre la France et l'Australie, des anecdotes, des choses, des fun facts, des choses sympathiques.
Et toujours sur le plan culturel, on profite peut-être de l'occasion pour rappeler aux gens qu'il y a cette exposition Chanel à la Galerie nationale du Victoria.
Absolument une exposition unique, puisqu'elle vient du musée Galliani à Paris. C'est une exposition qui est absolument extraordinaire et donc qui commence la semaine prochaine. Si vous êtes intéressé par aussi tout ce qui se passe derrière, tout ce qui n'est pas visible, on a un cours spécial autour de l'esprit de Chanel, et où il y aura aussi un des commissaires d'exposition qui interviendra. Il y aura toutes sortes d'informations. On aura aussi des, un film qui sera sur, ces, sur l'histoire de Chanel. Donc voilà, des jolies choses autour de cette exposition mode.
Et Johanna, est-ce que vous auriez peut-être un message à nous accorder en cette fin d'année ?
Eh bien, profitez bien des fêtes. J'ai envie de dire, on a tous mérité de se retrouver en famille, entre amis. Et je pense que c'est important de rester dans l'unité, la confiance et de célébrer les fêtes de Noël, l'été. Et puis, c'est un accomplissement d'arriver à 90% de la population vaccinée. Et je pense que voilà, maintenant, il faut réapprendre à vivre normalement. Et il ne faut pas avoir peur parce que finalement, c'est la peur n'est pas un bon véhicule de toute façon. Donc, il faut profiter de ces fêtes pour se réunir et être ensemble. On a la chance d'être sous le soleil australien et voilà, donc c'est le moment de sortir, de faire des pique-niques, d'aller au musée, d'aller au cinéma. Toutes ces habitudes qui faisaient que la vie était belle, je pense qu'il faut vraiment les reprendre, reprendre les événements sociaux, les inviter vos amis, votre famille, aller au cinéma, aller au musée, à sortir, découvrir des nouveaux endroits. J'ai envie de dire, il faut réinsuffler cet esprit d'aventure hein, qui caractérisait bien les Australiens et qu'on a un peu perdu ces derniers mois. Donc, je dirais en route pour l'aventure et puis pour l'interculturel aussi, puisque c'est la fermeture des frontières aussi isolée intellectuellement, culturellement. Ça appauvrit, hein, je pense. Donc, c'est le moment de se rattraper.
Absolument. Johanna Durand, merci et toujours un plaisir de vous accueillir sur les ondes de SBS French. À très bientôt.
À très bientôt. Joyeuses fêtes à tous. Et puis, on se retrouve le 13 février pour ce Frenchie So Chic à la Werribee Mansion, qui va être un moment de joie et de fête pour prolonger les festivités estivales. Et il y aura un artiste français. Donc, j'invite tout le monde à réserver dès à présent ses billets.
Absolument. Merci encore une fois et à très vite.
Absolument. Joyeuses fêtes à tous. À bientôt.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
C'était bien entendu, vous aurez reconnu sa voix, Eddie Mitchell, qui est de retour avec un album en 2021. Eddie Mitchell et cette chanson, Un petit peu d'amour sur SBS. Il est 13h et presque 58 minutes. On va faire un retour sur les grands titres de l'actualité pour aujourd'hui. Et dans l'actualité pour ce 4 décembre, un cluster Omicron dans une des écoles à l'ouest de Sydney, un cluster global qui passe à 13 cas, dont 3 cas donc Omicron dans cette école à l'ouest de Sydney. L'OMS d'ailleurs qui déclare qu'Omicron est maintenant désormais détecté dans 38 pays à travers le monde. Et en sport, on l'a vu dans le journal, la Croatie qui se qualifie pour la finale de la Coupe Davis. Et en handball, les Françaises qui entrent en jeu de belle manière en battant l'Angola 30-20 dans le mondial donc de handball en Espagne. Voilà, on arrive à la fin de notre programme en français sur Radio SBS. Je vous rappelle notre site internet sbs.com.au/french, notre Facebook où nous sommes facebook.com/sbsfrench et sur Twitter, nous sommes également présents en tant que SBS French. Prochain rendez-vous avec le français sur SBS, c'est demain à 13h avec Jean-Noël Ducasse et la semaine prochaine, mardi et jeudi à 13h également. Je vous rappelle qu'il y a tout un tas de films en français sur SBS en demande, n'hésitez pas à y aller. Il y a pas mal de comédies et de superbes séries françaises donc disponible pour vous gratuitement sur la plateforme SBS On Demand Pro. Bah, je vous souhaite un bon après-midi à tous et puis un bon appétit si vous êtes toujours à table. À demain avec SBS.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.